franceinter.fr. CO2 mon amour, avec l'énergiemoinschère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Alors la ville est propriétaire de ces barrages à 50%. Alors il y a 4 à 5 barrages autour de Briançon qui vont à terme produire la moitié de l'électricité consommée intramuros sur la ville de Briançon.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec Yann Bouillot à la technique et Philippe Duclos, et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur, qu'il était doux en octobre, comme ça, de se promener en chemisette par les beaux éclairages d'automne, au milieu des feuilles rousses, et d'oublier le temps. Le temps d'un souffle chaud et les fracas du monde, car depuis 8 jours, c'était des nuits d'ours bruns qui se gavent de baies, de renardes qui furettent, de marmottes qui rentrent dans son foin, qui rentrent son dernier foin avant de boucler son terrier, de lune tiède qui se mire sur le Tarn et plonge son regard sur le toit de la cathédrale d'Albi, par exemple. Et bien sûr, ce beau temps, donc, qui a perduré et qui vient de s'évanouir hier dans le froid, a été mal partagé. Donc, la grotte de Bernadette, a subi un grand nettoyage qui n'avait rien miraculeux, à coups de flots du Gave de lourde en furie. Cela a bousculé les cierges consacrés et les Indiens de l'été. Évidemment, nos pensées sont tout à fait compassionnelles vers ces deux jeunes gens, donc du Var, avalés par un ruisseau qui s'est fait plus gros qu'un torrent des Alpes en quelques heures. Depuis une dizaine de jours, donc, on profite de tout, des dernières langueurs, des sanglots longs allongés dans l'herbe déjà fraîche, en regardant les vols d'oies sauvages. Et la nuit, on comptait les étoiles et leurs bergers. Mais pourquoi bouger? Pourquoi migrer? Se dit la toute petite mésange bleue. Eh oui, pourquoi prendre tant de risques de traverser des pays inconnus? Il y a à becter ici. Il fait bon. Oui, parce que les oiseaux, entre eux, ne disent jamais manger. Ils disent bien becter. Et pourtant, elles bougent, les mésanges bleues, par milliers depuis le nord de l'Europe en ce moment. Allez savoir le grand mystère de la migration. Les oiseaux allaient-ils se laisser abuser par un 24 degrés de fin d'octobre? Eh bien non. Car la nature en général réagit certes à la chaleur, mais à la lumière, à la durée d'ensoleillement et à la nourriture disponible. Et puis peu après, ce seront donc les milans, les hirondelles, les grives, les alouettes, les grues, les oies, les fauvettes de votre jardin, les cigognes emmanchées d'un long cou qui regagnent leur quartier d'hiver en passant la Méditerranée. Ils vont se frotter les plumes au vent brûlant du Sahara. D'un seul vol, ils longent les côtes, les caps où les attendent aussi des milliers de fusils pour retrouver les plaines du Sahel, l'Afrique généreuse et sa provende d'insectes gourmands. Un grand fleuve de vie palpitante et fragile passe en bruissant vers le sud. Alors, il ne s'agit pas de tourisme aérien, vous l'avez compris, mais simplement de vie et de survie. Et quand tout s'agite comme ça autour de vous, cette leçon valait bien un fromage de chèvre sur un quignon de pain. J'espère que vous avez pu déguster, vous aussi, ce petit supplément d'été. Alors au menu de cette émission, d'abord un salut amical au Festival du Vent de Calvi qui fête ses 20 ans, à Carina et Serge Auru, donc créateurs du Festiventu, ce caravansérail d'écologie et d'expression artistique qui permet de parler de la Corse de façon positive au lieu d'installer des containers pour recycler les douilles. Faute de pouvoir embarquer cette année sur le navire, je leur souhaite un excellent vent. Et puis, en fin d'émission, en préambule au débat national sur l'énergie, on fera un petit point climatique et énergétique avec Frédéric Denré, avec aussi un petit reportage dans les Hautes-Alpes, et je vais vous emmener, ce sera au milieu de cette émission, dans la superbe vallée de Chaux-de-Four. Nous sommes dans le massif du Puy de Sancy, et quelle est l'origine de ce mot, Chaux-de-Four?
Il y a deux versions, la première qui voudrait que Chaux-de-Four vienne de chaud comme un four, ouais, lié à des sources présentes dans la vallée, où il y a des sources qui ressortent à peu près 25 degrés. Donc ça c'est la première version, mais en même temps, le climat est très très rigoureux l'hiver, on est vraiment en montagne, quoi. Et la deuxième version, ça tiendrait à la forme de la vallée, qui a une forme de four de boulanger, un cul de four, Chaux-de-Four en patois, et en le francisant, ça nous aurait donné Chaux-de-Four.
C'est Philippe Loudin, le garde de la réserve naturelle nationale de la Vallée de Chaudefour, donc il nous fera la balade. Et puis, bah, une émission, ça commence en général avec de la connaissance, oui, mais végétalisée. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Voilà, cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes, pour en finir avec les pesticides. Autrement dit, un autre sous-titre, c'est un peu l'alchimie dans votre jardin, disons-le. On va parler de l'allélopathie, du verbe l'alléopathé, non?
C'était pas tant. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand les plantes défendent leur territoire, qu'elles n'ont pas envie d'avoir une compétition trop sévère avec leurs voisines. Alors, il y a un exemple qui est historique, c'est le noyer. Sous les noyers, il n'y a pas tout qui pousse. Non. Et souvent, il n'y a presque rien qui pousse. Les pommes de terre, en tout cas, poussent très mal sous un noyer. Et à l'époque de Napoléon III, les paysans ne voulaient plus planter de noyer. Or, on avait besoin d'huile de noix, parce qu'ils disaient qu'ils gagnaient moins avec l'huile du noyer qu'ils auraient gagné avec les pommes de terre si on les avait mis à la place du noyer. Donc, ils ont arraché les noyers. Alors, il a fallu les convaincre qu'il fallait continuer à planter des noyers. Et pour cela, l'empereur a eu une idée, ou quelqu'un d'autre, de mettre au bord des chemins de champs des petits tas de pierres pour que le paysan qui porte des sacs sur son dos puisse se reposer en mettant le sac sur le petit tas de pierres. Autrement, s'il le met par terre, il faut qu'il le redresse. Alors, il paraît que les petits tas en question, qu'on voit parfois encore dans les campagnes reculées de la France profonde, que les petits tas ont fait redémarrer les cultures de noyers. Mais j'atteste, moi, qu'en effet, les noyers, il n'y a pas grand-chose qui pousse en dessous, mais par contre, dans mon jardin à Rodemack, il y avait beaucoup de pervenches. Des pervenches qui poussaient sur le noyer. Ouais. Donc, tout n'est pas intoxiqué de la même manière. Ce qui est intoxique, c'est le brou et les feuilles qui, lorsqu'il pleut, font tomber sur le sol un produit qui s'appelle la juglone. C'est ça qui est la cause de cette allélopathie. Alors, il y a un autre exemple intéressant, c'est l'eucalyptus.
Oui.
Oui, alors là, on est en région méditerranéenne. Moi, j'ai découvert la mer dans le golfe de Porto, en Corse, l'année de mon bac. Le golfe de Porto et les calandres de Piana, c'est ce qu'on fait de mieux sur le territoire maritime français, disons avec Belle-Île-en-Mer, avec la côte de Belle-Île. C'est vraiment des très, très, très beaux paysages marins. Mais j'avais été frappé, parce que j'avais toujours ce sens de l'observation, qu'il ne pousse rien sous les eucalyptus. Mais rien du tout. Il y a des feuilles mortes, mais il n'y a pas d'herbe. Pourquoi ? Parce que les feuilles d'eucalyptus émettent dans l'environnement, et ça dégringole par terre, un produit qui s'appelle l'eucalyptol, et qui est terriblement allélopathique. Il n'y a rien qui pousse en dessous. Alors on se dira, mais comment ça se fait qu'en Australie, d'où viennent les eucalyptus, puisqu'on les a ramenés d'Australie il y a à peu près 200 ans, comment c'est-il qu'en Australie, il y a plein de plantes qui poussent en dessous et pas chez nous ? Réponse, parce qu'en Australie, les plantes ont le temps de s'adapter aux eucalyptus à travers les millions d'années, et que chez nous, il a débarqué d'un coup sec, et les plantes n'ont pas eu le temps de s'adapter à lui, et donc elles sont toutes parties. Et il y a beaucoup maintenant de polémiques.
Est-ce qu'elles pourraient revenir éventuellement enfin...
Ah ben, il faudrait ramener les plantes australiennes et les mettre en dessous de l'eucalyptus. Il y a beaucoup de polémiques au Portugal en particulier, parce qu'on plante beaucoup d'eucalyptus dans la mesure où ça donne très rapidement des troncs importants et une production de bois très importante. Donc pour faire la pâte à papier, on utilise souvent des eucalyptus.
Alors parlez-nous aussi de l'élante.
Oh, ça c'est très intéressant. C'est le faux vernis du Japon, c'est comme ça qu'elle s'appelle l'élante. Alors cet arbre, il vient de Chine, en 1751 en Europe, à peu près à la même époque, il rentre aux États-Unis. Eh bien, il gêne la croissance des chênes rouges. Il y a beaucoup d'arbres qui ont des feuilles rouges, vous savez, aux États-Unis, au Canada. Il gêne la croissance des chênes rouges et petit à petit, leur population régresse. Mais à l'inverse, il favorise l'érable rouge, qui est le symbole du Canada. Sur le drapeau du Canada, il y a la fameuse feuille d'érable rouge. Eh bien, l'érable rouge aime beaucoup les lentes, et quand ils sont ensemble, ils forment une paire terrible, et le chêne, il n'a plus qu'à se tirer. Donc ici, on a un exemple où une espèce invasive, parce qu'il est invasive, modifie complètement les peuplements initiaux. Et à la guaïule aussi.
Ça rapporte le caoutchouc, je crois.
Oui, c'est une plante qu'on a cultivée pendant la Première Guerre mondiale pour faire du caoutchouc.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Alors, elle pousse dans les déserts, et elle pousse très bien. Alors, comme elle contient un latex qui donne un bon caoutchouc, on l'a cultivée. Oh, catastrophe ! Voilà qu'elle ne pousse pas quand on la cultive en champ. Alors on fait un champ carré, on plante de la guayule, au milieu, elle dépérit complètement, sur les bords, elle dépérit un peu moins, et aux quatre coins, elle dépérit encore moins. Que se passe-t-il? Eh bien, chaque pied de guayule diffuse autour d'elle, autour de lui, un produit chimique qui s'appelle l'acide transcinamique, et qui tue les guayules autour, ou qui gêne leur croissance. Mais sur le bord, l'acide transcinamique, il vient que d'un côté, pas de l'autre, forcément, puisque de l'autre côté, il n'y a rien. Donc, elle se porte un peu mieux. Et dans les quatre coins, elle se porte encore beaucoup mieux, puisque l'acide transcinamique ne vient que d'un quart du cercle, et que ailleurs, il n'y a pas de guayule. Quand on a une guayule, il ne faut pas être au centre du champ.
On l'apprend à ses dépens.
On l'apprend à ses dépens. Quand elle est dans la nature, elle n'est pas gênée parce qu'elle ne pousse pas densément. Mais quand on crée une agriculture dense, eh bien, il est évident que celle du centre se porte mal. Faut-il donc fuir les centres quand on est dans un carré? Ça dépend de quel carré. Le carré de la garde impériale à Waterloo, quand tout allait mal et quand Blücher a débarqué à la plus grande stupéfaction de Napoléon avec ses soldats, il a fait donner Napoléon le carré de la garde. Là, il vaut mieux être au milieu que sur le bord. Oui, vous avez bien compris.
Oui, mais j'aime bien vos...
Si vous êtes sur le bord,
oui,
si vous êtes sur le bord, c'est très, très, très mauvais. Alors voilà, il y a encore la piloselle dont on pourrait parler, qui est une plante qui se suicide tellement. Elle veut tellement empoisonner les autres, elle s'empoisonne toute seule.
Ah oui.
Oui,
oui. Oui, donc elle n'est pas protégée quand même.
Mais ça a une application.
Sur les cultures. Alors.
Voilà. Eh bien, c'est très intéressant. C'est qu'on connaît des variétés de blé, de seigle et de maïs qui produisent des substances allélopathiques, qu'on appelle les acides hydroxamiques, par les excrétions des racines. Du coup, les adventices, qu'on appelle les mauvaises herbes, eh ben, se portent très mal.
D'accord.
Donc voilà des variétés de céréales qui se défendent toutes seules. Mmh. On est en train actuellement de sélectionner des riz en croisant des variétés qui ont un haut rendement avec des variétés très allélopathiques. Et ce riz va pouvoir se défendre tout seul contre les mauvaises herbes aussi. Donc vous voyez qu'apparaissent ici des stratégies qui font qu'on va pouvoir se passer de pesticides,
oui.
Puisque c'est la plante elle-même qui se défend en étant allélopathique faisant dégager les plantes parasites et concurrentes.
Merci Jean-Marie Pell. Donc c'était nos réactions de défense sur différents territoires. Et je vous renvoie donc à Cessons de tuer la terre pour nourrir les hommes. Merci Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous et n'oubliez pas le carré de la garde impériale.
Oh, bah ça, on retient que ça même d'ailleurs. C'était Carmen Maria Vega sur France Inter, la marquise, la bise à la marquise. Manu va plutôt faire la bise au chamois et au mouflon, vous allez comprendre pourquoi. Deuxième partie de CO2 Mon Amour. Là, on est en fait entre les mains de quoi ? Du travail des volcans, du travail des glaciers ?
Les deux se sont associés pour nous créer la vallée telle qu'on peut la voir aujourd'hui. D'abord les volcans, ouais. Avec un volcanisme un peu différent de celui de la chaîne des Puys. Là, on avait un stratovolcan, un énorme édifice, des éruptions un petit peu partout. Donc ça devait être quelque chose d'absolument apocalyptique lorsque c'était en activité. Et puis ce volcan cesse son activité il y a autour de 200-250 000 ans. Et ensuite, on a plusieurs périodes glaciaires. Et là, les glaciers sont venus faire un rôle de sculpteur, ont creusé, façonné ici, etc. Et là, nous sommes dans le fond de vallée. Et là, c'était le glacier qui nous a raboté la vallée, qui nous l'a donnée telle qu'elle est là aujourd'hui. Donc on voit encore quelques dépôts glaciaires, quelques dépôts moréniques dans les fonds de vallée.
Eh bien, merci, monsieur le volcan. Eh oui, car grâce à lui, on va prendre le grand air dans ce massif du Sancy, dans le département du Puy-de-Dôme. On va grimper plusieurs marches, depuis les plateaux fertiles de la Limagne, Chambon-le-Lac. Et puis, on va arriver dans les Monts d'Or, oui, dans cette vallée glaciaire du massif de Sancy. Donc, des pentes abruptes, le maintien d'une activité pastorale, comme ça, ça favorise une grande variété d'espèces. En plus, des influences à la fois nord-sud, est-ouest, qui fait que dans cette vallée de Chaux-de-Four, eh ben, vous avez plus de 1000 espèces végétales différentes dans cette réserve naturelle nationale qui a été créée en 1991 et qui est maintenant gérée avec l'ONF, avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Ça couvre, si vous voulez, à peu près 820 hectares. Donc c'est vraiment un des lieux, un des spots, on va dire, de l'Auvergne, hein, en ce qui concerne la biodiversité. Et le Sancy est derrière, mais on ne le voit pas. La Dor et la Dogne prennent naissance aussi pas très loin. Et en fait, notre univers, ce sont, si vous voulez, des habitats qui sont dispersés. Et puis vous avez des sommets qui s'appellent la crête du coq, la dent de la rancune, les cornes du diable. Mais je vous rassure, le lieu est plus accueillant que les noms qui sont donnés aux rochers environnants. Et avec Philippe Loudin, qui est garde technicien de cette réserve naturelle nationale de la vallée de Chaux-de-Four, eh bien, on va partir. On va s'offrir la balade. Il y a aussi Chris Barbe, qui est potière, qui a séjourné pendant plus de 15 ans dans les lieux.
Quand on passe à cette hauteur-là, c'est absolument incroyable. La vallée là qui ramène un petit courant d'air, c'est glacial.
Il y a toujours une bulle.
Même en plein été, quand il y fait très très chaud, il y a le petit courant d'air glacé.
Alors Chris Barbe, vous qui êtes potière, évidemment, quand on parle d'une vallée qui a été façonnée, donc on se dit il y a peut-être des mains géantes qui ont fait ça, quoi. Voilà. Non, mais vous me disiez surtout que, en fait, en plein hiver, il fait très très froid.
Il fait très très froid, il neige pas mal. Eh bien, on dit que, et c'est écrit dans les livres d'ailleurs, qu'il faut comparer la haute Auvergne à 1000 mètres de plus, donc le climat des Alpes à 2002 par exemple.
Ah d'accord.
2002.
Alors là, on passe devant donc une forêt que vous avez éclaircie. On imagine bien qu'il y avait tous les épicéas qui fermaient complètement le paysage. Et là, maintenant, on a des trouées de lumière incroyables. On a même d'ailleurs du vert qui est reparti au sol.
Alors ça, c'était la toute première opération qu'on avait réalisée l'année dernière, où on a travaillé pour apporter de la lumière dans ces plantations d'épicéas. On a commencé à éclaircir un petit peu. Dès qu'on avait un hêtre, on l'a mis en lumière. On a éclairci là où les épicéas étaient plus denses. Et très rapidement, on a vu la lumière arriver sur le sous-bois, le vert arrivait des lisières et rentrait dans le bois. Les premiers arbustes commençaient à arriver. On doit avoir des sureaux qui commencent à pousser maintenant. Et un processus qui est en train de se mettre en route vers, à long terme, le retour vers une hêtraie, quoi.
Tous ces bois que l'on voit donc d'épicéas, découpés plus ou moins en morceaux, à quoi ça va servir après ?
Alors, il y a plusieurs usages. Les plus beaux, les plus grands partiront pour faire de la fermette, la petite charpente. Ouais. Du bois aussi partira pour la papeterie, les plus petits. Les épicéas partiront en papeterie. Et puis, ce qu'on voit là le long du chemin, ces tas de branches, eux...
Ça va me chauffer, ça.
Exactement, ils seront transformés en plaquettes et ça deviendra du chauffage.
La source Sainte-Anne, mécanisme de production d'eau thermo-minérale carbo-gazeuse. Bon, on va essayer d'en savoir plus.
Alors là, nous arrivons devant une source, devant une petite zone de captage. Ça fait plein de bulles.
Ça fait plein de bulles, oui, parce qu'il y a des gaz thermaux qui remontent à la surface.
Ouais.
Donc c'est une eau gazeuse et ferrugineuse, comme tu peux remarquer.
La couleur, absolument.
Et on voit qu'il y a d'autres sources qui sortent un petit peu partout et qui donnent des coulées orange absolument superbes.
Bon, alors si j'en prends tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Je me prends sûrement quelque chose?
Je pense que c'était très très bon pour les intestins. D'ailleurs, il y avait eu un début de station thermale qui n'a pas perduré et qui était très très bon, qui soignait les intestins.
D'accord. C'est-à-dire qu'elle était souveraine pour soigner l'anémie.
Ah, l'anémie aussi.
Le fer en quantité quand même considérable. Tous les problèmes digestifs, l'intestin certes, si ce n'est que ça se prenait sous forme de cure, parce que bu comme vous souhaitez le faire tous les jours, à ce moment-là, ça accélère considérablement le transit pour le coup. Donc il faut rester raisonnable grâce aux quantités.
D'accord.
Il faut la goûter, parce que c'est quand même extraordinaire.
Là, on entend, sur le chemin, et on entend des...
Ah oui, puis il y a des bulles, bien sûr, qui ressortent.
Il y a des bulles un peu partout. Donc, les sources qu'on a vues tout à l'heure, s'il y a du gaz, c'est lié au passé volcanique, au volcanisme, puisque sous nos pieds, il y a encore du magma, tout ce magma dégaze, et qu'il y a des remontées de gaz un petit peu partout. Donc, elles sont évidentes lorsqu'on est aux sources. En revanche, là, sur le chemin, bon, si on passe un peu rapidement, on ne s'en rendra pas compte, mais il y a des remontées un petit peu partout. Donc, en étant un petit peu discret sur cette zone-là, on entend un petit bruit de glou-glou.
On va vous faire écouter donc le dégazage. Voilà, on vient de sortir du virage. Et là, gros coup de cœur parce qu'on rentre dans ce cirque de chaud de fou. Et c'est vrai qu'on a une impression vraiment... Philippe Laudin, donc, qui est assez alpestre.
Il y a des grandes falaises, des rochers escarpés, des grandes zones d'éboulis. Hein, c'est surtout un petit peu de l'autre côté. Et c'est ce qui fait tout le charme de cette vallée-là. C'est le plus beau coup d'œil de Chaudefaux quand on arrive. C'est vraiment saisi par le paysage quand on arrive ici.
Ah oui.
Et en plus de ça, petit à petit, ont été introduits des espèces. Le mouflon et le chamois, c'est lié à la chasse, tout simplement. Donc ce sont les fédérations de chasseurs qui ont décidé de lâcher ces animaux. Alors pour ce qui est du chamois, dans le Cantal en 1978, et ben ma foi, le paysage est sympathique, il y a de quoi manger, ça leur est convenu.
Ouais.
Et ils sont bien installés, et on est aujourd'hui dans des populations autour de 450 pour les uns et presque 200 pour les autres. Donc là devant nous, dans les lisières, c'est des zones qui aiment bien les animaux, et là il y a des animaux qui ressortent pour aller se nourrir sur les prairies, après avoir passé une partie de l'après-midi en particulier, dans les forêts, à l'ombre et au frais.
Et c'est pas un cerf, ça?
Non, hein, les cerfs...
C'est quoi, c'est un chamois?
C'est plutôt un chamois.
Ouais.
Les chamois...
Il est pas à côté, enfin, on le voit bien quand même, là.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ils arrivent on peut les voir en bas de vallée, à ces heures-ci.
Oui, enfin, il y aurait quand même la distance de fuite par rapport à nous, hein, c'est normal. Bon, enfin, là, je suis pas sûr, il a dû nous sentir.
Là, le chamois, il sait qu'on est sur notre sentier, il sait qu'il a pas de... Ouais. Il est en sécurité, donc il va pas fuir.
Bon, nous précisons évidemment que les cloches que vous entendez ne sont pas au cou des chamois ni des mouflons. Pas encore, tout va bien. Philippe Laudin, l'écologie du lieu, qu'est-ce que c'est? On est dans un milieu d'équilibre. L'homme, bien sûr, est là, et heureusement, a donné aussi une autre forme de vie. Mais c'est quoi les équilibres de ce lieu?
On est dans du montagnard et du subalpin. Un état de naturalité assez satisfaisant. Et tout le travail de la réserve, ça va être d'encore faire en sorte d'améliorer et de continuer à préserver ces espèces-là. Mais lorsqu'on est arrivé ici, lorsque la réserve s'est mise en place, il y avait le patrimoine qu'elle a aujourd'hui. Nous, on est là pour le préserver et le faire durer dans le temps.
Rappelons ce qu'est en fait le principe d'une réserve. Donc ce n'est pas un parc national, ça fait partie des outils de protection de la nature. On a donc aussi les conservatoires. La spécificité des réserves.
Alors, c'est une mesure de protection réglementaire, tout comme les parcs nationaux. Et si on devait faire une comparaison, ben, on serait plus proche des parcs nationaux. Alors, l'État, lorsqu'il crée la réserve, confie trois missions au gestionnaire qu'il va nommer. C'est la protection, d'où le personnel qui se promène avec des logos indiquant police de l'environnement. Donc là, c'est une partie du métier qui n'est pas neutre quand on est sur des sites comme là où nous sommes, très fréquentés. C'est la gestion. Donc tout ça va impacter toute la gestion ensuite. Qu'est-ce qu'on fait en forêt? Qu'est-ce qu'on fait sur ces prairies-là pour protéger ces espèces-là? Et c'est aussi sensibiliser, c'est-à-dire dire ce qu'on fait, montrer ce qu'on fait, initier les enfants, et pas que les enfants, au milieu naturel, comment fonctionne une forêt, comment vit cet animal-là, quand on le voit aujourd'hui, d'où il vient, où il va, comment il va faire pour passer l'hiver, etc. Donc tout ça sont les trois palettes du métier, la protection, la gestion et la sensibilisation.
Philippe, de temps en temps, on se met à gamberger. Bon, on n'était pas là au moment des dernières éruptions. Je crois que le côté du Puy-de-Dôme, c'était il y a 6000 ans. Mais peut-être qu'un jour, ça va se remettre à rebouger. Rien n'est définitif, là.
Rien n'est définitif, rien n'est figé, ne serait-ce que par quelques petits... Ce qui peut faire penser à tout ça, au fait que la nature n'est pas figée comme ça, c'est par exemple ici, il y a eu un très très gros orage en 94, où ça avait emporté des pans de bords de ruisseaux, de prés, de prairies, etc. Ça avait descendu des blocs, et c'est vrai que c'était extrêmement spectaculaire. Quand on s'est retrouvé avec l'équipe, qu'on est monté dans le fond de vallée, on montait, et puis on voyait le travail de l'orage. On montait, puis arrivé dans le fond de la vallée, tout le monde s'est assis, il n'y a plus un bruit. Et on regardait le paysage et on ne le reconnaissait plus. Et c'était quand même assez épatant, puisqu'on était là tous les jours, et d'un seul coup, on ne reconnaissait plus notre paysage. Donc c'est en constante évolution, c'est pas figé. Et des fois, on a parfois, nous dans notre travail, cette manie de voir peut-être figer les choses. Non, c'est toujours en train de bouger, toujours en train d'évoluer. Denis, est-ce que vous voulez voir quelque chose de magique dans cette lisière de forêt?
Oui, bien sûr. Oui.
Donc on va aller voir la preuve de l'existence des fées.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, où est-ce qu'elle est, Madame la fée? Oh là, d'accord. Donc, là, c'est une biche ou un cerf, ça?
Alors, c'est un cerf.
Oui.
C'est un cerf. Alors, ce que dit l'histoire, c'est que, en fait, la fée de Chaudefour...
Oui.
Donc une très très belle fée, très grande fée, brune, toujours habillée de blanc et de vert, les couleurs du Chaudefour.
Manquerait plus qu'elle soit moche, la fée.
Bah non, c'est une fée réglementaire.
D'accord.
Et donc, un jour, elle en a eu assez de l'orgueil des cerfs qui étaient là, promener ses bois, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort, etc. Et du coup, elle en a eu assez, elle a figé, et elle a transformé en être. Et là, on voit un être, et on a encore toute la silhouette du cerf, on a l'impression qu'il va bouger, avec l'encolure, les bois, l'œil et le museau.
On va se quitter donc avec la fée de la vallée de Chaudefour. Et puis bah, vous pourrez voir cet arbre transformé en cerf, donc ce être, par cette fée tout à fait délicieuse, si vous allez sur le site de CO2 Mon Amour, parce qu'on vous a mis donc un certain nombre de photos de cette vallée de Chaudefour, dont ce fameux cerf. C'est très étonnant. Vous verrez, c'est très très étonnant. C'est tout à fait. Merci alors à Philippe Loudin. Je voulais aussi remercier bien sûr Chris Barbe, Eric Vallée aussi pour son petit coup de main. Et puis puisque nous sommes dans le secteur en Auvergne, je voulais fêter aussi avec Christophe Noiseux les 20 ans de H2O. Alors ça, c'est l'émission environnementale de mon copain de France Bleu Auvergne, voilà, qui fait aussi un boulot tout à fait formidable. Donc cette vallée de Chaudefour, eh bien, en plein hiver, on l'a compris, c'est beaucoup de vent, mais c'est extraordinaire. Donc allez-y, prenez vos précautions, mais c'est très très beau. Et dans quelques instants, eh bien, on va poursuivre un autre voyage, on va s'intéresser au climat et à l'énergie avec Frédéric Denry.
User des espadons, me baigner nu dans la mer, changer de religion. Enfin sauter du manège, j'avirai dans la nuit, voir si je serai le même sur la mer en furie. Je vais rêver de poursuivre sur des rochers luisants le galurin de Pidgey, le galure rouge sang. Filer dans ses étoffes, elle le hâtait le pas, elle embrasa comme fastoche toute Noé de lilas. La houle du désir emportait Saint-Malo, nos cœurs évanouis gisaient au fond de l'eau. Soulever la mantille aspergée de citron, le mulise qu'on aspire. Même pris par la police, police des sentiments, je garde intact mon désir où je sens dedans. Sur les mâts de misaine, les marins vous diront que le galure de la reine n'existe qu'en chanson. J'avais rêvé de poursuivre sur des rochers luisants le galurin de Pidgey, galure rouge sang. La mantille aspergée de citron, le mets grise qu'on aspire.
C'était Polly Jean, Jean-Louis Murat. Vous aviez bien compris, hein. Auvergne, vallée de Chaudefour, Jean-Louis Murat, col de la Croix-Morant. Bah oui, tout ça est tout à fait cohérent, hein. Jean-Baptiste Auzibert s'est dit, tiens, on va sortir un petit Jean-Louis Murat. Là, on était hier plutôt près du col de la Croix Saint-Robert, qui n'est pas loin pour ceux qui fréquentent les lieux. Nous avons en ligne Frédéric Danhué, qui est ingénieur écologue de formation, journaliste scientifique, intervient régulièrement dans cette émission, qui est auteur de l'Atlas du réchauffement climatique aux éditions Autrement, 4e édition, et c'est sûrement pas fini. Quelle France en 2030, un ouvrage de prospective, son dernier ouvrage c'est La dictature du carbone, et on s'est dit que, pas à la veille, mais d'ici quelques semaines, vous allez avoir donc cette grande manifestation qui va parler donc de l'énergie, donc d'un point de vue national. C'était peut-être bien de se faire quelques petites piqûres de rappel. Bonjour Frédéric Danhué.
Bonjour Denis Chissou.
Alors, nous en parler d'abord, dans un premier temps, climat, puis après on va parler énergie. On sait bien que ce couple infernal donc fonctionne ensemble, puisque nous sommes aujourd'hui co-gestionnaires de ce fameux climat, et que si on ne rentre pas dans l'équation la part de l'homme, eh ben, on ne sait pas comment ça marcherait quand on voit l'accélération du phénomène du climat aujourd'hui. Un petit rappel, depuis un siècle, le monde a pris quoi en température? On parle bien en climat et non pas en météo, hein.
On est bien sûr du climat, alors sachant que la notion de climat global de la planète n'a pas d'existence scientifique, c'est juste une façon de rendre les choses pédagogiques, de vulgariser le problème. Alors la température moyenne du globe a augmenté d'environ 0,8 degrés, avec des écarts très importants entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère nord s'est plus réchauffé, on est au-delà du degré. L'hémisphère sud s'est donc moins réchauffé parce qu'il y a plus d'océans qui se réchauffent moins vite. On s'est aussi réchauffé aussi bien sous les tropiques, on est à plus 1 degré à la station du Lamantin en Martinique. On s'est réchauffé à plus 3 pratiquement dans l'Arctique. Et en France, on en est à... Alors en moyenne, on en est à 1 degré. Si on ne regarde que, par contre, les températures qui sont plus intéressantes, qui sont celles de la fin de soirée, c'est-à-dire au moment où on se réveille, enfin au moment où le soleil se lève, on en est à plus 1,5 degré en France. Mmh. Depuis un siècle, avec là aussi des écarts entre les régions. Globalement, ça s'est plus réchauffé sur la façade ouest et sud que sur la façade est et nord, avec surtout Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et une petite poche en Normandie qui est assez étrange. Voilà, donc l'augmentation, elle est réelle et l'augmentation, elle est rapide.
Alors c'est ça qui est intéressant, oui. C'est qu'en fait, quand on parle de ce degré ou de 1 degré 5 en ce qui concerne Midi-Pyrénées, par exemple, c'est que 80% de ce chiffre a eu lieu en l'espace de 30 ans.
En l'espace de 30 ans, à partir de 1980. Alors l'élection de Mitterrand en 80 n'y est pour rien.
Oui.
N'y est pour rien parce que Ensuite, Chirac et Sarkozy n'ont rien changé du tout. Non, mais blague dans le coin, depuis 1980, effectivement, la hausse de la température moyenne constatée depuis 1900, c'est fortement accentuer la pente de la courbe, si vous voulez, tous les 10 ans, s'accentue. Alors là, depuis quelques années, on en est à une pente légèrement moins forte, mais la tendance est toujours la même. On est sur un phénomène d'accélération, un phénomène naturel, et comme vous l'avez dit, si on retire l'homme de l'équation, on n'arrive pas à expliquer ce que l'on observe. Et juste un détail, enfin qui n'en est pas un, l'autre phénomène très important qui affirme la singularité de ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'il concerne la Terre entière. Les autres périodes d'accélération massive du réchauffement qu'on a pu observer, notamment dans les années 1674-1690, ne concernaient que l'Europe de l'Ouest. Là, ça concerne la Terre entière, même sous les tropiques, où on n'aurait pas dû observer une hausse de la température, compte tenu du fait que les écarts de température entre les saisons sont faibles. Donc on est bien sur un phénomène unique.
Alors que vous soyez dans votre jardin naturaliste ou bien agriculteur, évidemment ces phénomènes, vous les voyez, vous les observez. On a observé avant tout le vin, parce que c'était une denrée qui était donc importante financièrement. Donc on sait très bien que l'on vendange 2 à 3 semaines avant, déjà depuis pas mal de temps. Derrière tout cela, ça va être le problème de l'eau et l'allocation de la ressource qui nous attend.
Et oui, parce que ce que l'on observe déjà, encore une fois, il n'y a pas de preuve, il n'y a que des tendances. La tendance, c'est quoi? C'est qu'on a des hivers de plus en plus doux, où il pleut plus longtemps, plus souvent, avec moins de jours de gel. Et on a des étés qui sont sans cesse plus chauds, plus secs, et on a des printemps qui sont plus précoce. Donc ce qui se passe, c'est que il pleut globalement à un moment où la terre et la végétation qui est en dormance, au moment où donc cette végétation a moins besoin d'eau, c'est en hiver, et il pleut moins au moment où on en a besoin le plus. Et en plus, au printemps, le printemps comme il est plus précoce, la végétation a tendance à sortir plus tôt. Donc tout ça bouleverse ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire sa façon de vivre, si vous voulez, bouleverse la hiérarchie, la chronologie des événements entre je sors de la terre, je fais des bourgeons, je fais des fleurs, je fais du raisin. Alors pour l'instant, il n'y a pas de conséquences dramatiques. Pour l'instant, ça bénéficie plutôt par exemple aux plantes fourragères, ça bénéficie aux arbres, tout le monde a l'air bien content. Néanmoins, on l'a vu en 2003, la température qui monte favorise la végétation, mais quand l'eau commence à manquer, là la végétation n'en peut plus, elle se met en dormance et elle finit par mourir. Le vrai problème, c'est ça, le vrai problème du changement climatique, c'est bien ça qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est un problème d'eau. Non pas que l'eau va manquer, Denis, mais que l'eau, au moment où on en aura le plus besoin, en gros, elle va se planquer au plus profond qu'elle pourra, là où il fera moins chaud. Or, les besoins ne cessent d'augmenter en été entre le tourisme, les centrales nucléaires, l'arrosage du maïs, l'arboriculture, tout ça a besoin d'eau. Et la viticulture, dans le futur, aura besoin d'eau parce qu'il fait plus chaud et que des jus plus chauds, c'est des jus qui correspondent pas forcément d'un point de vue de leur composition au cahier des charges des AOC. Et donc, on discute aujourd'hui en France d'introduire cette hérésie de l'arrosage.
Oui, tout à fait. Alors, Frédéric Denré, donc on sait que ce réchauffement climatique ou ce dérèglement, si ce mot-là donc écorche les oreilles de certains auditeurs, accentue les phénomènes existants. C'est-à-dire que ça ne crée pas forcément de nouveaux phénomènes, enfin, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on a vu quand même débouler une petite tornade du côté de plans de campagne, donc il n'y a pas longtemps. C'est pas exactement dans les habitudes de la région, mais je sais qu'il faut au moins une trentaine d'années pour commencer à voir, on va dire, du recul nécessaire. Mais en tout cas, le réchauffement climatique accélère l'existence. C'est-à-dire que là où il pleut, eh ben, il pleuvra encore plus. Et là où il fait déjà sec, en fait, ça se réchauffera encore plus. C'est un peu ça l'idée ou...
Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça ne va faire qu'accélérer, qu'amplifier l'existant. Oui. Et en particulier sur le cycle d'eau. Alors sur les tornades, ça n'est pas une petite tornade, c'est une vraie tornade qu'il y a eu à plan de campagne.
Oui, bien sûr.
J'ai cherché dans les archives météorologiques, on a eu une vraie bonne tornade façon Tennessee en France, c'était le 19 août 1845, une tornade à 400 km/h sur la bonne ville de Montville, en Seine-Maritime, qui a dévasté à peu près tout, qui a soulevé des usines. Les tornades ne sont pas des événements exceptionnels. Elles sont juste à un stade, on appelle le stade F0 ou F1 en France. Voilà, ce sont des petites affaires. Les tornades, comme les cyclones, c'est quand on a une différence trop forte entre des masses d'air chaud et des masses d'air froid. Donc en théorie, avec un air qui est plus turbulent parce qu'il est plus énergétique, parce qu'il est plus chaud, on devrait avoir une augmentation de la fréquence de ces événements en France, dans les endroits où il fait le plus chaud, donc en Méditerranée et Languedoc-Roussillon. C'est pas impossible, mais pour l'instant on peut pas faire le lien avec le changement climatique. Par contre, juste une chose, ce que ça met en évidence les tornades, voilà, la tornade, elle a circulé à un endroit où on est vulnérable, à un endroit où le dimanche matin, des gens faisaient leurs courses dans des grands magasins. Si vous voulez, les changements climatiques vont peut-être augmenter la fréquence ou l'intensité des catastrophes naturelles, mais ces catastrophes n'en sont une que parce que notre vulnérabilité a augmenté, parce qu'on est plus nombreux, et on est plus nombreux à avoir construit peut-être dans des endroits où on n'aurait peut-être pas dû. C'est ce qu'a montré la catastrophe de la Faute-sur-Mer et les inondations de Draguignan en 2010.
Mais petite parenthèse, là aussi, c'est que pour la Faute-sur-Mer, il y a eu un rapport en 2008 de quelqu'un de la DDE, qu'on peut nommer, qui s'appelle Stéphane Raison, et je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment beaucoup lu, mais qui disait qu'effectivement, s'il y avait une conjonction de la montée de la mer et d'une rivière qui allait gonfler, ce qui a été le cas, ça a été double déluge. Enfin, c'était plus ou moins annoncé quand même.
C'était annoncé, tout ce qui s'est passé avait été annoncé, ce que la Cour des comptes dans son dernier rapport sur cette catastrophe a bien montré.
Oui. Vulnérabilité des villes, on vient d'avoir effectivement, vient de sortir donc une étude sur les villes, donc là concernant peut-être davantage le réchauffement des villes.
Oui, alors c'est une étude assez intéressante de Météo France et du CSTB qui vient d'être publiée sur la réaction de Paris et de l'Île-de-France à des températures plus élevées avec des scénarios optimistes pessimistes. Je vous le fais très court. En hiver, la température à Paris devra augmenter de 2 à 2,4 degrés d'ici la fin du siècle, et c'est surtout la disparition des jours où la température serait inférieure à moins 5 degrés, donc presque plus de gel à Paris à la fin du siècle, et en été, on en est à plus 3,5 à plus 5 degrés. Avec des disparités, c'est surtout le centre de Paris qui serait touché, la périphérie le serait un peu moins, le centre de Paris, 2e, 3e, 8e arrondissement, avec plus 4 à 7 degrés. Il y a deux choses très intéressantes, c'est que le réchauffement serait plus important sur les zones rurales de l'Île-de-France, par exemple, la Seine-et-Marne. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y a pas assez de plantes, il n'y a pas assez de diversité de plantes, donc ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire la fabrication de vapeur d'eau par les plantes soumises à la chaleur, serait moins forte qu'en ville. Donc il risquera de faire plus chaud sur les zones rurales et les champs de maïs, si vous voulez, qu'à Paris même.
Alors pour résister à cela, ça veut dire qu'il faudrait mûres végétaliser, davantage de végétation, mais alors le paradoxe, il va falloir de l'eau pour l'arroser.
Exactement. Ce qui peut faire baisser, c'est la végétalisation de la ville, non seulement parce que ça crée de l'ombre pour les habitants, mais surtout parce que cette végétation, effectivement, fabrique de la vapeur d'eau parce qu'elle a chaud, mais pour ça, il faut qu'elle ait de l'eau. Donc le paradoxe, c'est qu'il va faire chaud, donc on aura moins d'eau, mais il faudrait arroser pour que la végétation puisse faire en sorte qu'il fasse moins chaud. Et l'autre technique, donc ça peut jouer sur 3 à 5 degrés quand même, hein, cette affaire-là, et l'autre technique, c'est de faire ce que font les Arabes et les Grecs depuis des siècles, c'est-à-dire peindre les murs en blanc, et en tout cas les toitures, avec un effet qui pourrait aller jusqu'à 3 degrés.
Et puis certaines villes aussi, on s'en souvient quand même, il suffit de se promener un peu partout dans la France, étaient aussi resserrées, alors pour peut-être différentes raisons, mais aussi pour se protéger, on va dire peut-être de trop de chaleur dans le midi.
Ah bah oui, il suffit de voir, voilà, la constitution, l'urbanisme des villes provençales, la constitution, aller à Santorin en Grèce, les villes du Maghreb ou même Bagdad, ces villes étaient construites pour se faire de l'ombre et pour bénéficier des courants d'air. Alors effectivement, malheureusement, c'était au dépens de la luminosité des appartements. Oui. Mais voilà, si vous voulez, le HQE, tout ça, c'est on ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes.
Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et on va s'intéresser après donc à l'énergie. On a posé quelques briques sur le climat et puis je vais aussi vous emmener dans les Hautes-Alpes.
I might wait forever to tell you what's wrong. I might tell you to your face, but only when you're gone. 'Cause I know that I care, I know that I care. I might wait lifetime to make my lifetime plan. It's better late than never. I'll do all I can. And I know that I can. I know that I can. 'Cause I know that I can. I know that I can.
En libéraux sur France Inter et en fait je vous emmènerai dans ce petite commune des Hautes-Alpes une autre fois parce que parce qu'on va être un peu coincé par le temps, mais Frédéric Danhé est toujours avec nous. Première partie, on va dire climat avec quelques rappels, et puis cette fois-ci davantage sur l'énergie. En préambule, donc au débat national qui aura lieu fin novembre. Bon, là, ça traîne un peu parce que l'organisation des discussions n'est pas encore complètement finalisée. Chacun souhaite que les ONG d'un côté, le MEDEF de l'autre, etc., les élus souhaitent que les choses soient tout à fait bien cadrées. Ça ne l'est pas encore, mais ça va venir. Alors quelques éléments de rappel, si vous voulez, ou de compréhension pour ce débat. Faut-il parler de consommation? Faut-il parler de production, Frédéric Danhé?
Écoutez, vaut mieux plutôt parler de consommation, parce que effectivement, on ne parle que de production. C'est-à-dire, on agite le moulin à prière des énergies renouvelables en disant, voilà, avec 20% de production d'énergie renouvelable d'ici 2020, on sera engagé sur une voie verte. Mais c'est pas parce que vous aurez 20% d'énergie renouvelable sur le gâteau de la production que la consommation sera de 20% d'énergie renouvelable. Le problème, c'est qu'en se focalisant sur la production, on se focalise sur des solutions techniques, ce qui est normal dans un pays de techniciens et d'ingénieurs comme le nôtre, mais on ne fait qu'augmenter l'offre. C'est-à-dire, on a le nucléaire, on a le gaz, on a l'hydroélectricité, on va rajouter l'éolienne, la biomasse, le photovoltaïque. On va ne faire qu'augmenter le gâteau, et donc on ne va qu'augmenter la demande. Or, on sait bien que notre souci, c'est que nous consommons trop, qu'il faut nous rendre moins dépendants de l'énergie, et en focalisant les choses sur la production, on envoie le plus mauvais message, et en fait, on ne change strictement rien.
Alors, le Grenelle de l'environnement, on s'est rendu compte, portait sur le résidentiel et le tertiaire. Ça représente quel volume, ça, on va dire, aujourd'hui?
Résidentiel et le tertiaire, c'est, selon les mesures, c'est 44, 47, 50%. On va dire une petite moitié de notre consommation d'énergie finale en France. Mmh. Et on peut faire, il y a une étude qui vient de l'Union française de l'électricité qui vient d'être publique, est intéressante. On peut au maximum jouer sur 88% de cette petite moitié. Donc dans le meilleur des cas, et ce meilleur des cas est assez difficile à atteindre pour des questions budgétaires, pour des questions de prix de l'énergie aussi, dans le meilleur des cas donc, on ne pourrait toucher à 25, 30% peut-être d'économie au maximum. Oui. Au maximum. Voilà, donc on est loin du compte, et pour un coût de 500 milliards d'euros d'ici 2020, vu la période, si vous voulez.
Oui, ça va être difficile. On a compris que ça va être compliqué. Dans les bonnes nouvelles, quand même, il faut rappeler que l'efficacité énergétique, en gros, depuis les années 70, a beaucoup baissé.
Et oui, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que nous investissons pour faire un point de PIB, ou si vous voulez, la quantité d'énergie qu'une machine a besoin pour faire le même produit. Voilà.
Enfin, pardonnez-moi, quand je dis, enfin, c'est l'efficacité qui a monté, mais c'est l'énergie qui a baissé. Voilà.
C'est ça. Donc, notre société est plus efficace parce qu'elle produit plus de choses avec moins d'énergie. En moyenne, depuis 1970, notre efficacité a doublé. Donc, si vous voulez, notre intensité énergétique a divisé par deux, ce qui revient exactement au même. Donc, il nous faut deux fois moins de kilowattheures pour produire un point de PIB. Dans certains secteurs industriels, il nous en faut à peu près quatre fois moins. Donc, voilà, on utilise moins d'énergie. Nos sociétés, les sociétés occidentales, sont plus efficaces pour utiliser l'énergie.
Mais il y a ce qu'on appelle les effets rebonds, qui ont d'ailleurs été décrits pratiquement au XVIIIe siècle.
Ah bah, qui ont été décrits, c'est même James Watt qui en avait eu peur au départ, parce qu'il s'est dit, moi, ma machine à vapeur a un rendement double de la machine de la génération d'avant, celle de Newcomen, et pourtant on utilise plus de charbon. Et ça a été théorisé en 1865 par un monsieur qui s'appelait Jevons, dans un livre qui s'appelait en français sur la question du charbon. Et simplement, il a remarqué que dans la mesure où les matériels améliorent leur rendement, ces matériels utilisent moins de charbon, donc leur coût de fonctionnement est plus faible, et donc on les utilise plus. Eh bien, cet effet rebond, il est partout, et il a corrigé en grande partie les efforts qu'on a pu faire, il a pu corriger en grande partie l'amélioration de cette efficacité énergétique.
Alors sur les voitures, les ordinateurs, la taille des réfrigérateurs aussi, j'ai vu ça.
Ça c'est marrant, c'est l'ADEME qui a fait ça dans le cadre du programme Remodes en Europe. En 1995, vous aviez, vous preniez un frigo, quel qu'il soit, qui consommait tant de kilowattheures par litre, par volume. Aujourd'hui, ce frigo consomme à peu près moitié moins, volume constant, sauf que quand vous regardez les achats des consommateurs de chacun de nous, Denis, la taille du frigo a augmenté de 50%. D'accord. De la même façon, depuis une quinzaine d'années, on fait 30 à 40% de cycles en plus avec le lave-vaisselle. On roule plus en voiture. Voilà, c'est simplement...
On pourrait atteindre en fait une diminution de cette énergie, en gros de 20 à 25%, c'est à peu près les chiffres de l'ADEME, simplement par du comportemental. Alors, un autre point qu'on va faire rapidement aussi avoir en tête, c'est la décentralisation de l'énergie. On va revenir d'ailleurs aussi sur ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'énergie est complètement centralisée, on le sait. Même quand on produit des énergies renouvelables, on la vend donc à EDF. Demain, ça va être quoi ?
Si vous voulez favoriser la production d'énergie renouvelable, compte tenu du fait que les énergies renouvelables ont un rendement énergétique faible, parce que de temps en temps il y a un nuage sur le panneau solaire et de temps en temps il y a un anticyclone qui empêche les éoliennes de tourner, vous avez intérêt à diminuer les pertes en ligne, les pertes sur le fil électrique qui va de l'éolienne à votre compteur, de façon à augmenter artificiellement ce rendement. Et donc si vous voulez favoriser ces sources d'énergie, vous avez intérêt à les rapprocher des lieux de consommation.
Ça remet en cause la centralisation d'aujourd'hui. Et en fait, EDF n'est pas contre cette idée décentralisée aujourd'hui.
Ben non, parce que en bout de ligne, comme en Bretagne ou dans les Alpes-Maritimes, si vous voulez, les gens d'EDF vous disent, mais nous, si on avait une multitude de sites de production là sur les toits des gymnases, dans les hameaux, au-dessus des fermes, etc., nous, ça nous ferait autant de sites de production et donc une probabilité encore plus faible d'avoir une chute de tension le jour où tout le monde se met à regarder le même match de foot. Donc ça n'est pas du tout un concurrent du système nucléaire pour faire court. Au contraire, c'est pratiquement, ça ne peut-être pas faire plaisir à tout le monde, c'est plutôt une aide, si vous voulez. Et l'autre effet qui se coule, si j'ose dire, de cette affaire-là, c'est que quand vous savez que vous consommez ce que vous produisez, vous avez une appropriation mentale, presque morale de l'énergie, comme on l'a pour la nourriture, et comme par hasard, ça a été testé à Melbourne, ça a été testé à Chalon-sur-Saône, ça a été testé dans les entrepôts logistiques, comme par hasard, la consommation baisse d'un coup, c'est-à-dire que l'effet rebond disparaît.
Eh bien, écoutez, un grand merci, on pourrait continuer et vous reviendrez pour expliciter tout ça lors de ce fameux débat. Merci à vous, donc, Frédéric Danhé, et puis il ne me reste plus qu'à remercier Stéphane Combe, Christophe Imbert, qui a magistralement réalisé ce reportage sur Chaud de Four, Jean-Baptiste Audibert, Anne Gouzon pour les sites, Denis Chessou, je vous retrouve avec grand plaisir demain pour l'Atelier Mon Petit Loup à 19h54, et bien sûr, la semaine prochaine, possibilité de podcaster, de réagir sur le site, aucun problème, vous en avez l'habitude, pub.
CO2 mon amour, avec l'énergie moins chère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.